France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
D'un côté, il y a ce souci écologique à la source d'une révolution intellectuelle française, comme l'écrit le journal Le Monde. Des philosophes, des anthropologues dont les travaux, la pensée, la parole ont beaucoup été sollicités au plus fort de la crise sanitaire, parfois pour tenter d'imaginer ce que l'on a pu appeler, souhaiter, monde d'après. De l'autre, il y a ce plan de relance attendu pour la rentrée, où l'écologie est considérée comme un levier de croissance. Cette écologie qui crée de la richesse, qui est un projet d'amélioration de la qualité de vie, de notre performance économique et évidemment de notre souveraineté, comme l'écrivait dans une tribune intitulée « Tous écologistes » le Premier ministre Jean Castex fin juillet. Alors faut-il précisément continuer à dire d'un côté et de l'autre? Comment cette activité intellectuelle mais aussi citoyenne avec la Convention sur le climat peut-elle réellement faire bouger la politique, entraîner des changements de modèle? Écologie, politique, des idées et après. Bonjour Pierre Charbonnier.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, chercheur au CNRS, auteur notamment du livre « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques » publié en janvier dernier aux éditions de La Découverte. Pour commencer, peut-être vous demander simplement comment vous analysez ce moment et cette réponse, cette vision exprimée par le Premier ministre.
Ça, c'est très compliqué de l'analyser. En tout cas, la façon dont vous avez introduit le problème est intéressante. Il y a un écart vraiment fabuleux entre la façon dont les sciences sociales aujourd'hui, et au-delà des sciences sociales, la philosophie, mais bon, ça c'est secondaire, essaie de comprendre la façon dont les sociétés contemporaines, les sociétés héritières de la trajectoire de l'industrialisation, nous on essaie de comprendre ça, on essaie de mettre en jeu non seulement des rapports sociaux, mais des rapports sociaux à la nature. En tout cas, au vivant, aux ressources, au territoire, mais aussi des rapports sociaux à l'avenir. Mmh. Ça, c'est une dimension très importante. Donc, ça nous oblige, comme toujours, à rendre beaucoup moins spontanées qu'elles ne le sont habituellement pour nous dans l'action. Nos habitudes, en fait. Les sciences sociales, ça dénaturalise les habitudes. Ça les déconstruit, on pourrait dire. Bon, de l'autre côté, évidemment, la vie politique est prise dans une immédiateté, dans des architectures de décision avec beaucoup d'inertie, etc. Donc, elles peuvent pas absorber ça. On ne peut même pas leur demander de l'absorber d'un coup. Mais on peut au moins identifier le fossé et essayer de rejoindre, par les instruments de l'analyse des sciences sociales, de la philosophie, quelque chose qui relèverait de la pratique. Mais effectivement, on en est encore assez loin, malheureusement.
Oui, voilà, la question c'est comment on fait des ponts au minimum, comme vous dites, si on ne peut pas en tout cas tout de suite combler le fossé. Il y a cette question de souveraineté, on l'a beaucoup entendu ce mot dans les discours sur ce que devrait être la reprise, l'après-crise, la reconstruction économique, écologique et solidaire sera la clé de notre indépendance, disait Emmanuel Macron en juin. L'indépendance, c'est la liberté présentée comme telle. En tout cas, plus nous serons productifs, plus nous serons libres. Et inversement, c'est le pacte que vous expliquez dans votre livre et dont vous dites qu'il est dans une impasse. Là, on met vert derrière industrie, mais finalement, nous sommes toujours dans ce schéma.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a ce reflux du discours de la souveraineté, mais en un sens totalement dégradé. Parce que là, souveraineté, ça veut simplement dire l'idée de développer une économie verte nationale qui permettrait en fait de maintenir la croissance de l'économie de cette entité géopolitique qu'est la France, en fait au détriment des autres fatalement. Alors qu'en réalité la souveraineté, ça veut dire comment on fait pour contrôler notre destin collectif. C'est comme ça, c'est le sens qu'on donne à ce terme quand on parle, par exemple au moment de la Révolution française, on parlait de souveraineté du peuple. C'était pas souveraineté de l'appareil d'État, c'est souveraineté du peuple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de parler, par exemple, de souveraineté alimentaire? Est-ce que ça veut dire qu'on a une grosse agro-industrie nationale qui, en fait, se protège contre les abus du commerce international? Ça, c'est pas une bonne définition, je pense, de la souveraineté. Ou est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, c'est la définition d'origine de la souveraineté alimentaire. Est-ce que ça veut dire, en fait, de rendre au collectif des producteurs agraires les moyens de travailler dignement, d'une manière qui est bien rémunérée, d'une manière qui produit de la qualité. Et là, on fait de la souveraineté, ce qui ne veut pas dire qu'on fait du protectionnisme, en fait. Mmh, mmh. Donc, il y a vraiment une équivoque sur ces questions-là. Et de toute façon, recourir à l'idée de souveraineté comme autonomie, en fait, dans nos frontières, c'est de toute façon, enfin, pour un pays comme la France, c'est une absurdité totale. La France, en fait, explose ses frontières nationales parce que quasiment toute la viande qu'on consomme est produite parce qu'on achète du soja, par exemple, au Brésil. Et après, on se plaint que Bolsonaro fasse n'importe quoi. Mais en fait, nous le mettons au pouvoir parce qu'on mange, en quelque sorte. Hein, je raccourcis un peu, mais c'est quand même un peu ça l'idée. Donc, nous consommons des territoires sur lesquels nous ne vivons pas. Il en va de même pour les énergies, l'essence qu'on met dans les voitures, etc. Tout ça, c'est pas produit localement, si vous voulez. Donc, il y a des liens internationaux à renégocier, des liens commerciaux, des liens politiques, et l'écologie politique, c'est ça aussi, hein, sont ces rapports de force-là. Donc, cette espèce de discours à l'ancienne, de fierté nationale, on va se faire notre économie verte bien à nous. Bon, je crois que c'est quand même assez largement en trompe-l'œil.
Et puis, on va éviter de dépendre des autres parce que c'est aussi, nous dit-on, voilà, ce qui a été mis en lumière par la crise sanitaire, que ce soit les masques, les médicaments, on s'est aperçu qu'on dépend des autres. Donc, il faut bâtir notre propre autonomie, donc notre liberté.
Oui, effectivement. Mais effectivement, ce moment de crise sanitaire qui n'est pas terminé, ce qui met en avant, c'est moins ce qu'il y a de tributaire chez nous à l'égard de fournisseurs extérieurs que le niveau auquel nous avons, en fait, sous-investi dans le soin. C'est-à-dire, non pas dans la recherche, effectivement, d'une liberté gagée sur l'abondance, mais dans la recherche d'une liberté gagée sur l'entretien des grandes infrastructures et l'entretien, en fait, de ce qui nous fait tenir comme collectif. Donc, c'est de la justice, c'est du soin, c'est de la transmission des savoirs. Donc là, on revient à notre question. Ce sont des choses comme ça qui effectivement, sont aujourd'hui ce qui fait l'objet des plus grands désinvestissements de la part de la puissance publique. Donc là, effectivement, il y a un problème. Ce problème, c'est que la rationalité de marché ne parvient pas à orienter les flux de capitaux dans cette direction-là, parce que c'est pas fait pour, parce que la justice, l'école, la recherche et la santé, ça ne produit pas. Enfin, dans le lexique économique classique, ça ne produit pas de valeur, ça ne produit pas de profit, et pourtant c'est ce dont nous sommes le plus tributaires.
Alors justement. Au moment de la sortie de votre livre « Abondance et liberté » en janvier, vous disiez, et vous l'avez dit ici avec Guillaume Herner, que votre espoir, c'était de voir un alignement d'intérêts de différents groupes sociaux, ceux qui expérimentent un autre rapport à la Terre, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, le peuple gilet jaune qui a exprimé une demande forte de justice sociale, et le peuple des élites qui commence à comprendre que notre modèle économique n'est plus le bon. Vous résumiez ça ailleurs en disant que le zadiste, le jacobin écolo et le technocrate radicalisé pactisent. Avec justement ce que nous vivons en ce moment, cette crise de la Covid et tout ce qu'elle a pu révéler ou du moins mettre en lumière, ne sommes-nous pas, Pierre Charbonnier, exactement au moment où cela pourrait, devrait se passer ?
Ben c'est toujours le même problème. Effectivement, moi et manifestement vous aussi, on peut penser que ça pourrait se passer et que ça devrait se passer. Or, ça ne se passe pas réellement. Vous m'aviez posé la question de savoir quelle était un peu la passerelle entre le monde des idées et puis le monde de l'action politique. Je pense qu'il y a quand même une chose importante à dire à ce sujet, c'est que aujourd'hui, les conditions pour que ce type de passerelle apparaisse sont pas réunies.
Quelles sont-elles alors, les conditions?
Je peux pas vraiment vous dire quelles sont les conditions, mais je peux peut-être vous dire ce qui font que ces conditions sont pas réunies. On peut prendre réfléchir sur un autre objet. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, dans notre pays, enfin, dans beaucoup d'autres pays, beaucoup de gens, par exemple, se battent pour la justice sociale, pour la justice liée, en fait, à l'héritage colonial du pays. Une famille se bat pour la justice et la vérité parce que un homme a perdu la vie en rencontrant la police. Et à ces gens-là, ce qui est massivement répondu dans l'espace médiatique, vous êtes des historiques, vous voulez polariser la nation, vous importez des concepts venus d'Amérique qui sont nocifs. Alors que d'abord, ces revendications sont en fait républicaines, enfin, c'est difficile d'être contre la justice et la vérité, vous voyez. Donc, il y a une, volontairement, je change un peu de débat pour vous montrer.
Non, mais c'est
important, et vous voyez que c'est lié, parce que ce que ça veut dire, c'est que c'est devenu extrêmement difficile de montrer que notre société est traversée par des pathologies profondes. Parce que pour le faire, très souvent, en fait, il faut transformer l'image qu'on a de nous-mêmes, transformer l'image qu'on a de notre passé, de notre avenir, de la façon dont on est gouverné. Et quand les gens qui, en fait, demandent de la justice pour les minorités raciales en France le font, on leur oppose ça. Alors, sur les questions écologiques, c'est un petit peu différent, hein. On fait beaucoup moins l'objet de cette campagne, franchement, fasciste, au fond, de certains grands médias. Par contre, je fais l'analogie parce que, par exemple, si on essaie de dire, vous voyez, par exemple, il y a un dispositif de gouvernement, d'orientation économique qui s'appelle la croissance, les indicateurs de croissance, qui est à la fois un ensemble d'objectifs économiques, mais aussi une manière de se rapporter à nous-mêmes. Vous voyez, on se conçoit nous-mêmes comme des gens dont la projection dans le futur est totalement tributaire de la croissance. Bon, si on dit ça, ça ne fonctionne plus, il faut essayer de trouver autre chose, immédiatement, et c'est en fait ce qu'a dit le gouvernement, c'est pas possible, c'est le retour en arrière, ça rend impossible le financement du modèle social, etc. Alors que tout ça est assez largement inexact, et il est assez difficile d'imposer dans l'espace public une réflexion saine et raisonnable sur la bonne manière de produire un avenir qui soit quand même raisonnablement désirable. Donc voilà pourquoi, enfin, une partie des raisons qui expliquent qu'il est très difficile de créer cette passerelle entre la pensée sociale et l'action politique, c'est que des résistances importantes, on rencontre des résistances importantes. Alors, encore une fois, c'est pas les écologistes qui rencontrent les résistances les plus violentes, hein, très loin de là. En tout cas, en Europe occidentale. Parce que dans d'autres pays du monde, il y a des assassinats de militants environnementaux, etc. Donc là, il y a un déficit de recul critique, de réflexivité. Donc là, on est à France Culture, ça va bien, on arrive à le faire sans obstacle majeur, mais c'est quand même pas si courant que ça dans la société.
Non, mais alors justement, parce que vous dites les médias, les gouvernants, bon, soit. En même temps, quand Jean Castex, il dit il croit à une écologie qui est celle de l'action plutôt que l'incantation, et qui parle même d'écologie moralisatrice, voire sectaire. Évidemment, c'est une opposition qui n'est pas nouvelle. Évidemment, il fait de la politique. Mais aussi, quand il dit ça, il sait que ça sonne tout de même aux oreilles aussi d'une partie des Français. Il n'y a pas que les médias et tout ça qui font que ça n'avance pas. Il y a aussi des. Enfin voilà, on se souvient évidemment d'une des racines du mouvement des Gilets jaunes, la taxe sur les carburants. Donc ça, c'est aussi une réalité tout de même qui dépasse les médias et les gouvernants.
Oui, mais en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que effectivement, quand le gouvernement dit en gros, nous, on va vous faire une écologie qui ne vous appauvrit pas, une écologie qui ne va pas menacer le mode de vie de ceux qui soit sont les plus modestes, soit ceux qui se considèrent comme tels. En disant ça, je pense qu'on ferme des portes dans le débat. Parce qu'on ferme la porte, en fait, une porte qui est tellement évidente et tellement massive qu'on n'en parle jamais, c'est que il y a un problème de transfert de richesse. C'est-à-dire que si on veut investir dans de l'équipement public de qualité, sobre, divisé par 5 ou 10 la gigantesque facture énergétique du pays, bah en fait, il faut qu'il y ait des quantités massives de richesses qui s'orientent vers du bien public, en fait. Donc, en fait, il y a un moment donné où l'espèce de bascule, qu'on peut dire anthropologique, un peu comme ça, grandiose, ne se résume pas, mais quand même demande ce transfert de richesse-là. Bon, bah évidemment, l'action gouvernementale n'est pas orientée par ce type de mécanisme. Je pense que c'est même pas une critique de le dire, parce que c'est comme ça qu'ils ont été élus. C'est plutôt dans l'autre sens qu'ils envisagent les transferts de richesse. Donc là, bon bah, écoutez, on est dans un bras de fer assez simple et ce bras de fer n'est pas loin d'être terminé.
Et alors justement, il y a aussi ce réflexe, et en ce moment encore, on le voit, d'opposer croissance-décroissance. Vous vous dites, et vous le disiez tout récemment encore dans Libération, que finalement, ça n'est pas le sujet en réalité.
Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que le grand défaut de la décroissance, c'est que paradoxalement, il y a encore une espèce de fétichisme à l'égard de ce qu'est la croissance. On va absolument l'éviter. Moi, je crois, enfin beaucoup de gens l'ont dit avant moi, il faut plutôt être indifférent en réalité à la croissance. Ce que beaucoup de gens essayent de faire, c'est concevoir une économie dont les critères ne sont pas ceux de la performance en termes de profit, en termes comptables, si vous voulez. Parce que par exemple, quand il y a une grande catastrophe naturelle, appelle des réparations et des mécanismes assurantiels. Et ça, c'est de la croissance, vous voyez. En fait, quand on détruit, entre guillemets, du capital humain ou naturel, pour le reconstituer, pour le régénérer, ça fait de l'activité, ça fait des transferts de richesses, donc ça rentre dans le bilan. Sauf qu'en fait, ça rentre dans le bilan comptable de la nation, mais c'est comme si on pagayait contre le courant en permanence. Vous voyez, quand on va nettoyer les algues vertes sur les plages bretonnes, ça crée de l'activité, mais c'est de l'activité qui est entièrement dirigée pour compenser les conséquences néfastes d'autres activités. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le concept de croissance, enfin du PIB en fait, c'est un objet d'un très haut niveau d'abstraction en réalité. Donc si on pense l'économie en fait comme un ensemble de relations fonctionnelles, fonctionnelles liées plutôt, on peut dire, à la valeur d'usage qu'à la valeur d'échange, là on change complètement de métrique et on est, je pense qu'on est mieux à même de voir si on a une économie, pour dire, qui progresse ou qui régresse, c'est-à-dire qui crée du bien commun, on pourrait dire, ou qui le dégrade. Donc ça, la croissance, enfin la mesure de la croissance ne sait pas rendre visible ces choses-là, donc c'est pour ça qu'il faut en changer. Après, dans le cadre d'une grande transition énergétique, sociale, par cette grande bascule de capital vers le prix du privé, vers le public, peut-être que ça fera de la croissance, de l'emploi. Bon, j'en sais rien, je suis pas un technicien, vous voyez, de l'économie, mais à la limite, peu importe.
Alors, en mai, vous écriviez dans Le Monde, on va terminer avec ça déjà, Pierre Charbonnier, mais l'écologie nous divise bien plus qu'elle nous rassemble. Et à propos de la Convention citoyenne sur le climat, vous avez dit que ces conclusions, ces propositions étaient bonnes parce qu'elles ont créé de la division politique. Donc ça veut dire que les avancées peuvent venir aussi justement du conflit ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que c'était une équivoque de cette convention citoyenne. Il y avait un côté un petit peu unanimiste. Voyez ce qui se passe quand on expose les gens à de l'expertise, à du savoir. Tout le monde devient écologiste. Et donc, on donne à l'action gouvernementale une espèce de cahier des charges qui va l'orienter. Et puis, devant nous, le retour des jours heureux. Bon, ça ne se passe pas comme ça, en réalité, parce que les 150 propositions, elles créent du conflit. Parce que si on les met en application, ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un vient au conseil d'administration de Total, de Renault, ou même des grands corps d'État, et dit bon bah en fait ça, ça, ça et ça, c'est terminé. Faut changer, il faut arriver à générer de la richesse commune sur des bases matérielles différentes et dans une architecture juridique, économique, administrative complètement remodelée pour faire passer ça. Donc il y avait le risque que la Convention citoyenne du climat tombe dans cet écueil de l'unanimisme un peu béat, un peu abstrait. Mais en réalité, comme elles ont fait face à un freinage, à une dégradation, à toutes sortes de manœuvres comme ça, il y a du conflit. Et peut-être que ça va nous aider à trouver la bonne ligne de démarcation, quoi. Parce qu'il nous la faut, cette ligne-là. Il faut savoir, en fait, contre qui on se bat, tout simplement.
Et on verra ce que deviennent en tout cas ces propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Le calendrier a été un peu repoussé, c'est en janvier que ça devrait se traduire par du travail parlementaire. Merci beaucoup Pierre Charbonnier.
Merci.
D'être venu sur France Culture ce matin. Votre livre « Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques » est publié aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup.